Vous êtes sur RTL. RTL Midi. Le 12h. Pascal Praud, Céline Landreau.
Bonjour à tous et bienvenue dans RTL Midi. 2h30 d'information, d'opinion jusqu'à 14h30. Et l'information jusqu'à 13h, c'est donc avec vous, Céline. Bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour à tous. Au lendemain de la deuxième grande journée de mobilisation contre la réforme des retraites, le gouvernement s'attaque à un autre dossier sensible, lui aussi en présentant aujourd'hui son projet de loi sur l'immigration. Être gentil avec les gentils, méchant avec les méchants, avait résumé en substance le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Dans les faits, des travailleurs sans papiers régularisés, des délinquants expulsés. On vous expliquera tout dans cette édition. À suivre aussi dans une dizaine de minutes, l'enquête RTL dans le port du Havre sur les docks où transite la coque. Le port normand est en effet devenu la principale porte d'entrée de la drogue blanche dans notre pays. Dans cette édition également, le nombre de sans-abri qui a doublé en France depuis 10 ans. Le pape acclamé en RDC, 1 million de personnes ont assisté à sa messe ce matin. Et puis l'imbroglio au PSG qui pourrait se voir privé de sa recrue Hakim Ziyech.
5 jours par semaine, nous vous proposons ce rendez-vous RTL Midi, un jour chez vous en France.
Le gouvernement propose aux salariés de l'URSSAF de Picardie de tester la semaine des 4 jours. Nous irons donc, nous, à Lyon aujourd'hui dans une entreprise qui l'expérimente déjà. Cette semaine de 4 jours, c'est d'ailleurs l'objet de la question du jour sur notre site rtl.fr. Aimeriez-vous, vous, travailler 4 jours par semaine? À midi 20, RTL Midi, votre vie plongée dans votre quotidien, dans votre jardin. Aujourd'hui, les arbres pour mieux respirer, oui, mais lesquels? Vous verrez qu'il y a aussi des faux amis. Enfin, juste avant 13h, votre rendez-vous culture. Son nom ne vous dit peut-être rien, pourtant son œuvre est partout, presque, dans votre quotidien. BD, logo de chaîne de télé, police d'écriture. Étienne Robial sera notre invité dans RTL Midi.
Les tarifs des péages autoroutiers augmentent de près de 5% aujourd'hui. Ce sera l'une des questions pour les auditeurs de 13h à 14h30.
La météo aujourd'hui, c'est avec vous, Peggy Broche. Bonjour.
Bonjour Céline, bonjour à tous.
Qu'est-ce qui nous attend cet après-midi?
On va positiver, ça s'améliore par l'ouest.
Merci Peggy, la météo complète et la positive attitude donc à la fin du journal.
RTL Midi.
Il passerait presque incognito tant les regards et les esprits sont accaparés par la réforme des retraites. Le gouvernement présente aujourd'hui en Conseil des ministres son projet de loi sur l'immigration. Thomas Després, vous êtes à l'Élysée pour RTL. C'est un nouvel exercice périlleux pour l'exécutif qui s'annonce.
Et oui, il n'y a pas que les retraites dans la vie, Céline. C'est l'autre dossier chaud qui va occuper le gouvernement en ce début d'année. Un texte vu comme l'illustration du « en même temps » prôné par le chef de l'État. Et pour mettre en scène ce « en même temps », il est présenté en ce moment même par deux ministres. L'un est une des figures de droite du gouvernement, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. L'autre, Olivier Dussopt, ministre du Travail, vient plutôt de la gauche. Un texte qui prévoit notamment l'accélération de l'application des OQTF. Vous savez, ces fameuses obligations de quitter le territoire français. Ça, c'est pour les mesures de droite ou encore le fait de conditionner l'octroi de titres de séjour à l'obtention d'un examen de français. Et pour convaincre l'aile gauche de la majorité, ce texte, il prévoit de créer des titres de séjour pour les métiers en tension. Sauf que ce « en même temps », il a fini par ne plaire à plus personne. La droite juge le texte trop laxiste en dénonçant des régularisations massives de travailleurs sans papier, tandis que la gauche le trouve trop coercitif. Les débats débuteront au Sénat dans les prochaines semaines avant une arrivée à l'Assemblée au mois de mai. Ça paraît très loin, mais les tractations ne font que commencer.
Thomas Després du service politique d'RTL. Le texte de la réforme des retraites, lui, est examiné pour la dernière journée en commission des affaires sociales à l'Assemblée avant son arrivée dans l'hémicycle lundi, veille de la troisième grande journée de mobilisation contre cette réforme des retraites après celle d'hier. Et ces cortèges fournis, 1 270 000 personnes dans les rues, d'après le ministère de l'Intérieur, du jamais vu depuis 1995, assuré ce matin sur RTL. Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT.
Un chiffre saisissant à présent et révélateur des problèmes du mal logement en France. Le nombre de personnes sans domicile a doublé en 10 ans selon la Fondation Abbé Pierre.
Oui, elles sont 330 000 aujourd'hui, 30 000 de plus que l'an dernier. Et deux fois plus, donc, vous le disiez, qu'il y a 10 ans. On parle ici de personnes qui vivent à la rue ou en hébergement d'urgence. Pour Manuel Domergue, directeur des études de la Fondation Abbé Pierre, ce nombre illustre de façon criante l'absence tente de véritables politiques du logement en France.
4000 personnes qui appellent le 115 chaque soir sans solution. Il y a aussi énormément d'enfants qui sont laissés à la rue sans solution, à peu près 1000 tous les soirs. Donc ça, c'est très inquiétant, évidemment. Même s'ils ont augmenté le nombre de places d'hébergement, ce qui est plutôt bien, ce qu'il faut, c'est une politique du logement. C'est ça qui bloque, en fait. C'est que les gens restent souvent en hébergement pendant des mois et des années et donc viennent alimenter ce nombre de personnes sans domicile parce qu'il n'y a pas assez de logements sociaux, notamment. Mais pour faire du logement, d'abord, il faut des APL pour aider les gens à payer leur loyer. Et du logement social, il y en a de moins en moins parce que la production chute depuis 3 ans, parce que le gouvernement fait des coupes budgétaires sur les bailleurs sociaux.
Un propos recueilli pour RTL par Pierre Collat. Nous sommes le 1er février, ça ne vous aura pas échappé. Et cela apporte son lot de changements sur le front économique. Le tarif de l'électricité augmente aujourd'hui de 15% pour les tarifs réglementés. 20 millions de foyers sont concernés. Augmentation aussi, mais dans une moindre mesure du taux de rémunération du livret A qui passe à 3%.
RTL Midi.
Une marée humaine pour le pape à Kinshasa. 1 million de fidèles ont assisté à la messe de François ce matin.
Oui, le pape qui est en visite en République démocratique du Congo, le plus grand pays catholique d'Afrique, a présidé cette messe en plein air, Émilie Beaujard, après avoir été longuement acclamé à son arrivée.
Et oui, des milliers de fidèles ont acclamé l'arrivée de la papa mobile, drapeau, chant traditionnel, le tout dans une ambiance survoltée, comme on a pu le voir sur les images fournies par le Vatican. Pour accueillir tout le monde, la messe en plein air a lieu à l'aérodrome de Ndolo à Kinshasa. Le pape s'est installé sur une grande estrade où il a célébré la messe en rite zaïrois.
Le Spirito Santo ne guarderà plus à ciò che le divide, ma ciò che li unisce. Andranno nel mondo.
Puis le souverain pontife a célébré toute une partie de la messe en français.
Dans l'eau profonde et silencieuse de ta miséricorde. Par Jésus le Christ, le Seigneur.
Amen. Amen.
Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.
Et avec votre esprit.
Dans son homélie en italien, le pape François a souhaité la paix aux fidèles. Il les a ensuite invités à ne pas céder aux divisions devant les blessures du pays. Cet après-midi, le souverain pontife rencontrera des victimes de violences dans l'est du pays.
Émilie Beaujard du service international d'RTL.
Le foot et au lendemain de la clôture du mercato, le PSG tente le tout pour le tout pour accueillir le Marocain Hakim Ziyech. C'est assez invraisemblable ce qui s'est passé.
Bah oui, puisque le joueur de Chelsea a bien rejoint la capitale française hier. Il a même passé sa visite médicale. Bref, tout était ficelé, ou presque, Philippe Sanfourche, puisqu'un imbroglio administratif menace aujourd'hui de tout faire capoter.
Oui, et ce n'est plus une menace, hein, puisqu'à l'instant même, l'information nous est parvenue. Et c'est la douche froide pour le PSG qui ne va pas bénéficier de la clémence de la commission juridique de la Ligue. Celle-ci s'était réunie ce matin depuis 10h30 pour considérer si des circonstances exceptionnelles pouvaient, comme le prévoit le règlement, permettre d'homologuer hors délai un contrat de mutation de joueurs. Eh bien, c'est non. L'imbroglio administratif entre Chelsea et le PSG n'a pas été jugé convaincant. Le club anglais avait envoyé un document erroné dans la soirée, puis des papiers non signés. C'est une fin de non-recevoir pour Paris et donc un petit fiasco sur ce mercato.
Mais qui est responsable, Philippe ? C'est les services de Chelsea ou les services du Paris Saint-Germain ?
Ah ben c'est l'ensemble en fait, c'est le fait de s'être mis d'accord trop tard et vous savez qu'il y a un logiciel très précis qui doit enregistrer les documents.
Ça fait pas très sérieux quand même pour un club comme le PSG qui est multimilliardaire d'avoir un problème d'administratif à une heure de la fin du mercato.
Exactement, c'est le petit coup de poker en fait, hein, tenté par les clubs qui veulent toujours grappiller quelques centaines de milliers d'euros pour
l'arrivée,
un contrat sur le bong. Et à l'arrivée, c'est un vrai fiasco puisque le Paris Saint-Germain avait deux priorités hier, qui étaient le défenseur slovaque de l'Inter Milan, Milan Skriniar. Les négociations n'ont pas abouti avec le club de l'Inter Milan.
Et qui est responsable au PSG dans ces cas-là? Parce que je sais que Jean-Claude Blanc est parti par récemment. Est-ce qu'il y a un rapport entre le départ de Jean-Claude Blanc et puis ce couac?
Non, c'est une partie de poker. C'est l'homme qui fait office de directeur sportif, Luis Campos, qui a décidé de boucler ce dossier à la dernière minute, sur ce dernier jour. C'est toujours le risque, quand on boucle les dossiers le dernier jour, c'est d'être hors délai. Et donc là, le PSG fait chou blanc, zéro pointé, puisque aucun joueur ne pourra être validé avant la fin de ce mercato.
Merci beaucoup, Philippe Sanfourche. La météo ?
La positive attitude !
On vous retrouve, Peggy Broche. Vous nous avez promis du positif.
Mais oui, c'est vrai.
Qui est-ce qui chantait ça ?
C'était Laurie.
Ah, Laurie, oui.
Ouais. On va rester positif.
Jean-Pierre Raffarin aussi.
Non, ça, c'est dans une reprise.
Exactement.
Pascal. Vous avez un joli pull jaune.
Merci.
La positive attitude.
Et ben voilà, c'est le soleil.
Exactement.
Parce que le soleil, on n'en a pas beaucoup ces derniers temps. On n'en a pas beaucoup, sauf entre les Pyrénées, les Alpes et la Méditerranée. C'est toujours le cas cet après-midi. Ça reste ensoleillé avec Mistral et Tramontane, pareil en Corse. Mais on va retrouver de belles éclaircies sur l'ouest du pays. C'est pour ça que je dis qu'on va positiver. Alors surtout, essentiellement, entre la Bretagne, la Normandie, l'Île-de-France, les Hauts-de-France, on aura des éclaircies également dans le sud-ouest ou vers l'Auvergne aussi. Alors ailleurs, sur l'ouest, ce sera un peu plus nuageux, mais on aura quand même quelques trouées. C'est pour ça que j'ai dit qu'on va positiver. En revanche, ça reste gris avec de faibles pluies ou de la brune sur un petit quart nord-est. Quelques flocons également sur les Vosges et le Jura et des températures de saison ou au-dessus des normales. Donc on positive également. 7 degrés à Nancy pour cet après-midi, c'est tout à fait de saison. 8 à La Rochelle et Limoges, 9 à Grenoble, ainsi qu'à Rouen, 10 à Paris et Lille, 11 à Nantes et Montélimar, 12 à Biarritz, et on est même au-dessus des normales près de la Méditerranée, avec 13 degrés à Marseille, 14 à Ajaccio et 15 à Montpellier.
Merci Peggy.
RTL Midi, un jour chez vous.
Un jour chez vous, et c'est la semaine des 4 jeudis.
4 jeudis, c'est pas pratique dans une semaine.
Non.
Mais 4 jours.
Jadis, pour dire on travaille que 4 jours, donc là il y aura 4 jeudis.
Ah bah désolé.
Je connaissais pas cette vieille expression là.
Bah, peut-être parce que c'est une vieille expression, Pascal, mais je voudrais pas être désobligeante. Le gouvernement a donc annoncé vouloir tester la semaine de 4 jours pour des fonctionnaires de l'URSSAF en Picardie, dans le cadre d'une expérimentation sur le bien-être au travail. Et Frédéric Perruche, on vous retrouve, vous, à Lyon. Bonjour.
Bonjour.
Vous vouliez nous parler de cette entreprise. Elmi, c'est un fournisseur d'énergie verte qui teste donc cette semaine de 4 jours, des 4 jeudis, comme dirait Pascal, depuis septembre.
Oui, c'est la nouvelle règle, 32 heures contre 35 pour les salariés et 35 heures contre 39 pour les cadres, très majoritaires dans cette société high-tech créée en 2015 et qui emploie une petite centaine de personnes, le tout effectué sur 4 jours sans perte de salaire. Une initiative très bien accueillie, vous l'imaginez, par l'ensemble du personnel, à l'image de Jules, 34 ans.
Tellement heureux de pouvoir dormir un jour de plus, faire d'autres activités et je fais la sieste et ça aussi c'est assez agréable tous les vendredis là, comme ça on est beaucoup plus reposé, beaucoup plus détendu pour aborder la semaine ensuite.
C'est tout bénéfice pour les salariés, on le comprend, mais pour l'entreprise ?
Eh bien c'est du gagnant-gagnant, assure la DRH d'Elmi, Camille Darde, car ce jour de repos en plus, assorti de journées un peu plus longues, évidemment permet à tout le monde de s'y retrouver, le personnel comme la société.
En fait, chez nous, ce jour en plus qu'on offre à nos salariés, il pénalise pas l'entreprise puisque finalement, en étant plus efficace, parce que plus reposé, parce que moins stressé, et ben finalement, on a la même valeur qui est produite. Donc on maintient notre chiffre d'affaires, on maintient toutes les activités qu'on a en temps normal, mais dans un temps plus court.
Et la formule permet également de recruter plus facilement. Cette semaine de 4 jours est une vraie plus-value pour attirer des candidats dans un secteur très concurrentiel.
D'accord, mais est-ce que c'est durable, Frédéric ?
Eh bien, c'est l'objectif, en tout cas, de la direction qui termine l'expérimentation lancée en septembre dernier pour 6 mois. Mais pour Caroline, jeune cadre, ce sera compliqué de revenir à la vie d'avant.
Alors là, clairement, vraiment pas de doute. Pour l'instant, c'est un vrai plus. Là, c'est vrai que je me suis dit, mais comment on faisait avant? Enfin, comment on faisait avant? Ce serait difficile de repasser à notre monde d'avant, quoi. Enfin,
5 jours.
Ouais, de 5 jours. Et les effets négatifs que moi, j'anticipais, d'avoir des journées, finalement, aux 4 jours, très compact, boulot, 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 bah finalement, les gens ont plus de sourire. L'ambiance est toujours aussi bonne. Pour l'instant, vraiment, je dirais que du positif.
Alors, un bilan sera fait à la fin du mois pour décider si cette semaine de 4 jours, de 4 jeudis, est pérennisée, mais ça paraît bien parti.
Merci beaucoup Frédéric Perruche à Lyon, donc pour RTL.
Dans un instant, les docks du port du Havre, gangrénés par le trafic de drogue, à tout de suite.
Céline Landreau, Pascal Pro. RTL Midi jusqu'à 13h. Céline Landreau, Pascal Pro, RTL Midi.
Ils sont 6 à être jugés devant la cour d'assises de Douai à partir d'aujourd'hui. 6 personnes accusées de trafic de drogue, de cocaïne, pour être précis, cocaïne qui transite par le port du Havre, première porte d'entrée de la poudre blanche en France. Bonjour Maxime Lévy.
Bonjour.
Les auditeurs qui étaient déjà à l'écoute avec nous ce matin ont peut-être entendu l'enquête que vous avez menée dans le port du Havre et plus particulièrement chez les dockers, maillons indispensables pour les trafiquants.
Oui, exactement. Sans les dockers, impossible de faire sortir la cocaïne du port du Havre, si vous voulez. La cocaïne arrive d'Amérique du Sud, elle est placée dans un conteneur et une fois arrivée au port du Havre, elle est bloquée. Les trafiquants vont donc devoir corrompre les acteurs du port. Il faut un docker pour déplacer le conteneur avec une grue, un docker qui va prêter son badge pour passer les portiques de sécurité. Le chauffeur routier, lui, va parfois être utile pour transporter le conteneur en lieu sûr. Des tâches qui se paient au prix fort. Les recruteurs peuvent percevoir entre 100 et 200 000 euros. Le docker qui déplace les conteneurs, 50 000. Et le chauffeur routier, lui, peut toucher entre 10 et 20 000 euros.
Et vous expliquez ce matin que ces dockers sont surveillés par des drones. Pour autant, Maxime, on va être très clair, tous les dockers ne sont pas complices de ce trafic de drogue.
Bien évidemment, non. Sur les 2400 dockers qui travaillent sur le port du Havre, il suffit seulement de quelques complices pour aider les trafiquants. Mais ce qui est vrai, par contre, c'est que les pressions organisées par les réseaux sont dans toutes les têtes sur le port. Il faut le dire, tout le monde connaît les risques. Il y a quand même eu en juin 2020 un docker, Alan Afagar, qui a été frappé à mort et retrouvé sur le parking d'une école.
Et ces pressions, Maxime, elles sont vraiment perceptibles quand on va, comme vous, quelques jours sur place ?
Disons que dans le quartier des Neiges, où de nombreux dockers habitent, l'ambiance est assez tendue. C'est avant tout le silence qui est perceptible. Personne ne parle ouvertement du trafic. On m'a plusieurs fois demandé de partir du quartier. Alors les trafiquants vont réaliser de véritables enquêtes sur les dockers, détecter les plus corruptibles. Une avocate me racontait que ses clients dockers se font aborder dans la rue. On leur propose une sortie de cocaïne et s'ils refusent, on leur montre la photo de l'épouse, des enfants, de l'école des enfants. Autant de détails qui expliquent que les dockers n'ont aucun intérêt à parler.
Maxime, est-ce que vous-même, vous avez pu travailler normalement, j'ai envie de dire ?
Ah, ça a été un petit peu compliqué. J'ai pu faire plusieurs tours de quartier, échanger un petit peu avec les habitants. J'ai pu quand même interroger une habitante. Mais au bout de 2-3 tours de quartier, j'ai quand même été repéré et j'ai dû partir. On a ouvert la porte de la voiture et j'ai dû partir un peu précipitamment. Mais tout allait bien quand même. Enfin, ça va.
Oui, rassurez-nous, vous êtes en pleine forme, en pleine possession de vos moyens. Maxime, oui. C'est nouveau comme phénomène, ce trafic de cocaïne dans le port du Havre ?
Ça date d'une dizaine d'années, donc on peut dire que c'est assez récent. En 2014, les autorités ont saisi 2 tonnes de cocaïne. À partir de 2017, ils ont commencé à saisir 4 tonnes. Et en 2021-2022, donc l'année dernière, on est passé sur 10 tonnes saisies. Le trafic s'est adapté à la fréquentation commerciale du port du Havre. Aujourd'hui, il y a 3 millions de conteneurs qui y passent chaque année.
Et comment les autorités tentent de régler tout ça ?
La PJ du Havre emploie 6 enquêteurs dédiés à ce trafic, donc il y a vraiment un important travail d'enquête et de renseignement sur qui constitue exactement ces réseaux. Et puis en première ligne, il y a les douaniers, ils réalisent les saisies, contrôlent les conteneurs, mais cela ne suffit pas vraiment. D'abord parce qu'ils sont eux-mêmes surveillés par les trafiquants, vous le disiez Pascal, par des drones par exemple ou la jumelle. Aussi parce qu'ils sont en manque d'effectifs et enfin parce que les trafiquants s'adaptent et n'hésitent plus par exemple à braquer et à tirer sur un semi-remorque en pleine rue quand ils savent qu'il y a de la cocaïne à l'intérieur, comme cela avait été le cas sur le Havre il y a un an et demi.
Merci beaucoup Maxime Lévy. Cette enquête a été retrouvée bien sûr sur notre site rtl.fr.
Dans un instant, RTL Midi, votre vie, respirer sous un arbre. On pense qu'a priori c'est bon pour la santé. Ben, on va vous expliquer dans un instant que ce n'est pas toujours le cas. On en parle.
L'actualité vous concerne. Sur RTL, venez en débattre au 3210. 50 centimes la minute. RTL Midi, votre vie.
Votre vie, car c'est l'info, c'est aussi ce qui fait votre quotidien, bien sûr. Et aujourd'hui,
il faut que tu respires. Et ça, c'est rien de le dire.
Respirez, oui, et vous vous dites que sous un arbre, eh bien, c'est toujours mieux. Mais c'est faux, parfois, en tout cas. Bonjour Pierre Sicard.
Bonjour.
Vous êtes chercheur chez Argence à Sofia en Antipolis. Vous travaillez sur les impacts de la pollution de l'air et du changement climatique sur les forêts et sur le rôle de l'arbre en ville notamment. Pourquoi c'est pas toujours bon de respirer sous un arbre ? Expliquez-nous.
Alors, en effet, donc c'est un message qui n'est pas facile à faire entendre et à comprendre. Alors, je dis bien que tous les arbres sont bons pour l'homme d'un point de vue esthétique, d'un point de vue psychologique, mais tous les arbres ne sont pas bons d'un point de vue qualité de l'air. Alors, je m'explique. Les arbres ont une capacité d'élimination des polluants de l'air par dépôt sur les feuilles, les branches, le tronc et par absorption pour les polluants gazeux au travers les stomates. Ce sont les pores à la surface des feuilles ou des aiguilles. Mais en même temps, certaines espèces végétales, arbres et arbustes, émettent des composés organiques volatiles qui se combine à d'autres polluants dans l'atmosphère et, sous l'effet du rayonnement solaire, engendre la formation de polluants dits secondaires, tels que l'ozone. Tout le monde connaît l'ozone en ville, surtout en été. Mm-hmm. Donc, par exemple, ces composés organiques.
Il y a des bons arbres et des mauvais arbres. Mais quels sont les mauvais arbres, par exemple, à ne pas planter en ville ?
Ou même dans son jardin, si je suis un particulier et que j'ai un peu d'espace.
Alors voilà, alors justement, la question du particulier, c'est très important, parce qu'en ville, c'est 85% de la superficie, c'est du privé. Donc l'écopropriété et les particuliers ont un rôle très important à jouer. Donc depuis 2020, je coordonne un projet européen dans lequel on a étudié plus de 400 essences. Et parmi ces essences, donc on a évalué ce qu'ils engendrent comme formation de polluants et ce qu'ils éliminent. Et vous avez des essences qui éliminent plus que ce qu'elles engendrent comme formation.
Alors, et donc, lesquelles?
Alors, par exemple, les palmiers, le Washingtonia, le phénix, l'eucalyptus, le sol, ce sont des essences qui ne sont pas recommandées à planter chez soi ou en ville. Et à défaut, donc je ne dis pas qu'il faut faire du monospécifique, mais une liste non exhaustive, c'est les érables, les tilleuls, le sophora du Japon ou les aubépines sont des essences adéquates et efficaces pour réduire la pollution de l'air.
Donc, vaut mieux mettre un tilleul qu'un palmier dans mon jardin.
Comment ?
Il vaut mieux que je mette un tilleul plutôt qu'un palmier dans mon jardin si je veux respirer convenablement.
Voilà.
Mais j'étais exactement en train de noter, monsieur Sicard, et vous avez dit palmier, mais je n'ai pas retenu les deux autres arbres à surtout ne pas planter dans mon jardin.
Il y en a plusieurs, c'est vraiment une liste non exhaustive. Mais vous avez le sol, par exemple, l'eucalyptus, alors en plus d'être invasif, d'être dangereux pour le
sol.
Le
sol pleureur, nous sommes d'accord.
Le sol pleureur, d'accord. Voilà, l'eucalyptus, chênes, le chêne vert.
D'accord. Alors, mais un sapin, par exemple, j'ai le droit ?
Alors, un sapin, oui. Alors, c'est vraiment spécifique à chaque espèce. Donc, comme les pins, le pin maritime, c'est une essence non recommandée. Alors que
le chêne,
pignon, le pin boule, oui. Le chêne vert, non. Le chêne chevelu, oui.
Bon, le chêne chevelu, c'est quoi un chêne chevelu ?
Le chêne chevelu. Ça ressemble au chêne pubescent.
Ça ressemble au chêne pubescent, alors vous me rassurez. Mais c'est quoi c'est le chêne, quoi.
C'est une des espèces de chêne.
Bon, bah écoutez, ça, c'est important d'avoir. C'est cette liste, en fait, qui nous intéresse. Donc, on plante de l'érable, tilleul, aubépine. Qu'est-ce qu'on peut planter encore ?
Alors après, j'étudie les essences subtropicales que l'on trouve par exemple à Valencia, parce que dans le sud de la France, nous pourrons planter ces essences peu consommatrices en eau et efficaces pour la pollution de l'air. Par exemple, vous avez le Tipuana tipu, le parasol chinois, le Zelkova du Japon, ce sont des essences qui seront adaptées au climat du sud de la France dans quelques années et qui sont bonnes pour la qualité de l'air.
Monsieur Sicard, le président de la République Emmanuel Macron a annoncé la plantation d'un milliard d'arbres en France d'ici 2032. Le monde politique, il est sensible à cette question du choix des essences pour les enjeux de santé ?
Alors, les collectivités s'intéressent de plus en plus à l'arbre en ville. Depuis l'été 2019, je ne sais pas si vous en rappelez, deux pics de chaleur, pics de pollution, la crise Covid qui a montré le bienfait des espaces verts d'un point de vue social. Et en fait, depuis un an, il y a des directives européennes qui demandent aux villes de plus de 20 000 habitants de fournir un plan de reverdissement ambitieux. Donc le message qu'il faut une stratégie bien pensée commence à être entendu. Et donc, c'est jouer sur les deux volets, ce que j'entends par stratégie bien pensée. C'est vraiment jouer sur le volet changement climatique, mais aussi sur la pollution de l'air, car les deux sont très étroitement liés.
Merci beaucoup. Pierre Sicard, je rappelle que vous êtes chercheur chez Argence à Sofia Antipolis et on retient donc qu'il vaut mieux se renseigner avant de planter un arbre dans son jardin. Merci encore.
L'info revient à 12h30, à tout de suite.
RTL, pour tout comprendre de l'actualité. RTL, s'informer ensemble.
Bonjour à tous si vous nous rejoignez, merci de rester avec nous si vous étiez déjà à l'écoute de ce RTL Midi, il est pile 12h30.
Le 12-30, Céline Landreau et Pascal Pro.
L'heure de l'édition de Céline.
Gentil avec les gentils, méchant avec les méchants, c'était le mantra résumé en substance par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Mantra que va tenter d'appliquer l'exécutif qui présente aujourd'hui son projet de loi sur l'immigration. Dans les faits, des travailleurs sans papier plus facilement régularisés, des délinquants expulsés. Juste après le journal, on vous expliquera ce que contient le projet de loi et ses enjeux politiques. Un projet de loi présenté au lendemain de la deuxième grande journée de mobilisation contre la réforme des retraites. L'exécutif, face à la rue, ne recule pas. Cette réforme est indispensable, martèle aujourd'hui le gouvernement quand les syndicats, eux, promettent de poursuivre le combat. L'actualité, c'est aussi ces deux personnes en garde à vue après la disparition de la jeune CM il y a une semaine. Des pharmacies qui rechignent à distribuer les préservatifs gratuits pour les jeunes. Et puis de la culture avec la sortie en salle aujourd'hui du film de Guillaume Canet, Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu. On sera à la sortie d'une de ces salles pour savoir si les premiers spectateurs sont ou non conquis. Et puis votre rendez-vous culture, vous le savez, juste avant 13h, LVT midi, avec un invité aujourd'hui. Son nom ne vous dit peut-être rien, son œuvre pourtant est partout autour de vous. Étienne Robial sera notre invité. La question du jour,
allez-y,
sur notre site rtl.fr. Est-ce que vous aimeriez travailler 4 jours par semaine, Pascal? Je sais que vous, ce ne serait pas le cas.
Non, je n'aimerais pas, parce que je préfère
parce que
travailler...
Parce que je vous manquerais le cinquième.
Exactement,
c'est
le
ça,
cinquième.
Vous êtes, voilà.
Vous êtes très rapide. La réforme des retraites, le gouvernement peut-il tenir? Ce sera l'une des questions que nous poserons à nos auditeurs.
La météo à la fin du journal avec vous, Peggy Broche. Mais déjà un indice pour cet après-midi?
Un peu plus d'éclaircies par l'ouest aujourd'hui.
Merci Peggy.
Jusqu'à 13h, RTL Midi.
Deux personnes en garde à vue à Nîmes depuis hier dans l'enquête sur la disparition de CM, cette jeune femme de 18 ans, introuvable depuis une semaine maintenant. Ces deux personnes, c'est un couple que CM connaissait, Patrick Tégéraud, puisqu'elle était la babysitter de leurs enfants.
Oui, et l'homme en garde à vue a tout de suite fait figure de suspect numéro un pour la famille de CM. C'est lui qui l'a emmené en voiture mercredi soir. Ce repris de justice est un proche de la famille de la disparue. Il a été condamné 11 fois. Il devait comparaître d'ailleurs ce matin encore aux assises pour un homejacking. Sa compagne est elle aussi en garde à vue. Leur domicile et leur véhicule ont été perquisitionnés hier après-midi. Ce matin, des parents et des amis de CM se sont rassemblés devant le palais de justice de Nîmes pour exprimer leur émotion, leur angoisse. Parmi eux, Soraya, une cousine de la disparue.
On espère la retrouver saine et sauve. C'était une fille joyeuse, elle avait le cœur sur la main avec tout le monde, elle aidait tout le monde. Dès qu'il y avait une injustice, c'était la première à aider les personnes. Du coup, c'est vraiment injuste que ça lui arrive à elle.
Des propos recueillis par Jérôme Régali du bureau de M6 à Montpellier. Alors, vu la tournure inquiétante de l'enquête, le parquet de Nîmes est désormais chargé de l'enfer. Les 24 premières heures de garde à vue se terminent tout à l'heure. La procureure de Nîmes devrait s'exprimer dans le courant de l'après-midi.
Patrick Tégéraud à Nîmes pour RTL. 3260 personnes ont été tuées sur les routes de France l'an dernier. Les chiffres viennent d'être communiqués par la sécurité routière. C'est un bilan relativement stable par rapport à 2019, dernière année de référence avant, vous le savez, la pandémie de Covid. Une augmentation préoccupante, en revanche, elle concerne la mortalité des cyclistes avec 244 tués l'an dernier et c'est 30% de plus qu'en 2019.
RTL Midi.
Une mobilisation jamais vue depuis 1995 au moins, voilà ce que clament les syndicats au lendemain de la grande journée de mobilisation contre la réforme des retraites.
1 270 000 Français ont défilé hier dans toute la France selon le ministère de l'Intérieur. Un acte 2 suivi donc, mais qui ne change rien pour l'exécutif. Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement, l'a répété à l'issue du Conseil des ministres tout à l'heure. Il n'y a selon lui pas d'autre moyen que d'appliquer cette réforme des retraites. Il dénonce par ailleurs des oppositions irresponsable.
Nous ne tiendrons pas avec le même modèle social, avec 20 millions de retraités en 2030, si on ne fait pas cette réforme. Nous regrettons que certains groupes d'opposition ne respectent pas eux-mêmes le rôle et le travail du Parlement. Nous sommes clairement dans une volonté d'obstruction parlementaire. Alors, nos députés ont-ils peur que ce débat vienne éclairer les Français, lever des malentendus, parfois tordre le cou à certaines contre-vérités colportées par des extrêmes ? À moins qu'ils se trouvent en fâcheuse position au moment de défendre ce qu'ils appellent leur contre-projet, un contre-projet irresponsable, chimérique, et qui voudrait faire croire qu'il serait possible de partir à la retraite dès 60 ans, sans autre solution de financement que l'explosion des impôts et de la dette.
Olivier Véran à l'issue du Conseil des ministres. Donc chimérique, disait le porte-parole du gouvernement, c'est pas l'avis des syndicats qui donnent déjà rendez-vous pour l'acte 3, eux, en deux temps d'ailleurs, cette fois les 7 et 11 février prochains. Une grève en semaine et une journée de mobilisation le week-end, Nerissa Emani, pour permettre en fait à tous ceux qui le veulent de se mobiliser.
Oui, un mardi et un samedi, deux dates complémentaires selon les syndicats qui appellent à faire les deux grèves si possible, une façon de monter en puissance parce que les actions vont se multiplier la semaine prochaine. Déjà, dès l'entrée du texte à l'Assemblée lundi, la branche pétrole de la CGT appelle à faire grève dans les raffineries et les dépôts pétroliers. Pendant 3 jours, il pourrait y avoir un arrêt des installations et donc aucune sortie de carburant. Le 7 et le 8, mardi et mercredi, les cheminots rejoindront le mouvement, tout comme les salariés de l'énergie et les dockers.
Et cet acte 3 dont on parle, Nerissa, c'est aussi un avertissement avec des actions peut-être plus offensives des syndicats.
Alors ce qui est sûr, c'est que ça veut dire d'abord que le mouvement va durer et qu'il peut peut-être se durcir tant que la réforme n'est pas abandonnée. Hier soir, la CGT le disait, on encourage toutes les grèves reconductibles, mais il faut qu'elles soient à l'initiative des salariés dans chaque entreprise. D'ailleurs, les cheminots ont déjà déposé des préavis dès la mi-février et menacent de grèves reconductibles de 24 heures. La CGT est plutôt favorable, on le sait, à des actions plus offensives, mais ce n'est pas le cas de tous les syndicats. Et la politique aujourd'hui, c'est de garder l'unité dans les rangs et de faire grossir les manifestations.
Merci beaucoup Nerissa Emani.
Le Royaume-Uni est en train de vivre sa plus grosse grève, journée de grève depuis 10 ans.
Alors il n'est pas question, outre-manche, de réforme des retraites. Non, la colère est davantage alimentée par le coût de la vie et les salaires qui ne suivent pas dans la fonction publique. Il faut dire, Marie Billon, que l'inflation dépasse les 10%.
Oui, et c'est pour ça que les travailleurs de la fonction publique font grève aujourd'hui. Ils veulent une augmentation de salaire en ligne avec la hausse du coût de la vie. C'est la plus grande journée d'action depuis la série de grèves qui a commencé en fin d'année dernière. Pour la première fois par contre, les enseignants font grève aussi. Ils se joignent aux cheminots, aux agents de la douane et à bien d'autres. En tout, ce sont 500 000 personnes qui débrayent. Chris Hickey est le représentant du syndicat de la fonction publique PCS. Il était ce matin sur un piquet de grève installé devant un des ministères.
We've had 2-3%.
Nous avons eu des augmentations de 2 à 3% selon notre ancienneté et nos fonctions. Or, l'inflation est de 10% et c'est sur le dos de 13 ans de baisse et de gel de salaire. On n'en peut plus.
C'est un jour d'action de grève relativement coordonnée, mais ce n'est pas une grève générale. Ce serait très compliqué à organiser vu les lois britanniques et les travailleurs de la santé d'ailleurs ne font pas grève aujourd'hui. Mais pour la population en général, c'est le jour le plus perturbé depuis le début de cette vague de grève.
Marie Billon, correspondante de RTL au Royaume-Uni.
Retour en France, il devait être disponible gratuitement en pharmacie pour les jeunes, mais le préservatif est loin d'être distribué dans toutes les officines.
C'est Emmanuel Macron, le président de la République, qui avait annoncé cette mesure pour lutter contre les MST, ces maladies sexuellement transmissibles. Des préservatifs pris en charge par la Sécu, distribués sans ordonnance. Alors ça, c'est pour la théorie, Nathan Bocard, puisque dans la pratique, une partie des pharmaciens refuse de le faire.
Oui, c'est ce qu'a constaté notre reporter Étienne Cholez hier. Sur une quinzaine de pharmacies, la moitié lui ont répondu.
J'en ai pas. Je n'ai pas commandé, donc j'ai pensé que c'était quelque chose qui se faisait automatiquement. Et moi, je ne me suis pas trop lancé là-dedans.
Le 1er janvier, on n'a pas été averti de la procédure à suivre. Ça a démarré à partir du 8-10 janvier.
Alors, y a-t-il eu en effet un retard à l'allumage? Le ministère de la Santé assure que non. Dès le 3 janvier, toutes les pharmacies ont reçu un courrier qui explique la marche à suivre. De toute façon, elles étaient censées avoir des stocks des marques concernées, puisqu'elles étaient déjà gratuites pour les jeunes, mais sur ordonnance d'un médecin. Du côté de la Fédération des syndicats pharmaceutiques, c'est donc l'incompréhension qui prime aujourd'hui. Philippe Besset en est le président.
C'est très surprenant, hein. On ne peut pas dire que la procédure est compliquée. En effet, les annonces ont été faites très rapidement. Et donc peut-être tout le monde ne s'est pas approprié la mesure très vite. Pour autant, les informations ont été passées dès la fin de l'année et en début d'année 2023. Je vais faire recirculer l'information suite à votre reportage.
En attendant, on ne peut pas dire que la mesure est capotée. Pour
non,
autant, sur les,
si je l'ai non, dit, pas ça,
j'ai osé
pas
Pascal,
vous.
Je m'en excuse. Mais en effet, la mesure fonctionne sur les 3 premières semaines de janvier. 1 300 000 préservatifs ont été distribués en pharmacie.
Merci beaucoup Nathan Bocard. Le foot et la douche froide pour le PSG. Sa demande d'homologation du prêt d'Hakim Ziyech a été rejetée par la commission juridique de la Ligue de football professionnel. Le joueur de Chelsea ne portera donc pas le maillot parisien pour la fin de la saison. Tout ça à cause d'un imbroglio administratif et d'un contrat qui a été transmis trop tardivement.
C'est le film français le plus attendu de ce début d'année, le plus cher également, 65 millions d'euros. Astérix arrive en salle aujourd'hui.
Cap vers la Chine dans ce nouvel opus signé Guillaume Canet, Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu. Lucie Respail, vous êtes allée ce matin voir le film, donc dans un cinéma des Halles à Paris, dans une salle bien remplie. Alors, on a pu lire des critiques très différentes hein, sur ce film. À la sortie, les spectateurs que vous avez rencontrés, ils en disaient quoi ?
Eh bien, ils nous disent que c'est très réussi. La potion magique d'Astérix a fait son effet. Des retraités, des parents, des enfants, un large public s'est pressé pour voir le film. Une salle presque remplie, seules quelques places sont restées vides. On a surtout entendu beaucoup de rires tout au long de la projection. Agathe et Anissi, 18 ans, étaient là dès 9h ce matin pour voir le film, mais aussi pour admirer leur idole, Guillaume Canet, qui était présent juste avant le film.
On a séché les cours et tout, et on est venu voir.
Ah, vous séchez les cours pour venir voir Guillaume Canet.
Mais oui, là, c'est bon, une bonne cause. Enfin, Guillaume Canet, Marion Cotillard, enfin, on s'est dit, allez, go, on y va, quoi. Ah, oh, on a adoré. Ah, ouais, c'était super drôle et tout, c'était génial. Plein de blagues, enfin, bref, non, c'était génial.
On a aussi croisé pas mal de fans des aventures d'Astérix. Beaucoup m'ont confié avoir adoré le nouvel Obélix, incarné par Gilles Lelouch. Il remplace Gérard Depardieu. Dans le cinéma où je me trouve, encore 9 séances de programmées aujourd'hui pour voir les plus célèbres des Gaulois.
Lucie Respail, vous avez aimé, vous, Lucie ?
Oui, franchement, c'était plutôt bien. J'ai pas mal rigolé avec les gens de la salle.
Bon, bah, tant mieux si vous avez passé un bon moment grâce à RTL, c'est toujours bon à prendre. La météo, on vous retrouve Peggy Broche l'espoir arrive par l'ouest, c'est
oui,
ça ?
Oui, voilà, exactement. On a une petite chance de voir un petit coin de ciel bleu sur l'ouest du pays, ce qui n'était pas le cas ces derniers temps, donc on va en profiter. Alors, un peu plus, c'est vrai, entre la Bretagne, la Normandie, l'Île-de-France et les Hauts-de-France, un peu plus également cet après-midi dans le sud-ouest ou encore vers l'Auvergne. Et ça reste très ensoleillé, comme les jours précédents, entre les Pyrénées, la Méditerranée et les Alpes. En revanche, sur un petit quart nord-est, entre le Grand Est et la Bourgogne-Franche-Comté, ça reste gris, avec de faibles pluies, voire de la bruine, c'est pas grand-chose, mais c'est humide. Et puis on a toujours quelques flocons sur les Vosges et le Jura des 600 mètres, tout ça sous des températures qui sont alors soit de saison, soit au-dessus. Donc ça aussi, c'est plutôt positif, avec, en tout cas ça fait du bien, 7 à Aurillac quand on a des températures de saison, là c'est le cas, 8 degrés à Strasbourg, 9 à Cognac et au Havre, 10 à Toulouse et Cherbourg, 11 degrés à Caen, 13 à Bastia, c'est un peu plus doux près de la Méditerranée, 14 à Perpignan et 15 à Toulon.
Merci Peggy.
Depuis 1986 et la loi Pasqua, on recense 21 lois sur l'immigration, 21 lois en 37 ans et ce sentiment que rien ne change vraiment. On en parle dans une seconde avec Thomas Proutot.
Jusqu'à 13h, RTL Midi. Pascal Pro, Céline Landreau. RTL Midi. Pascal Pro et Céline Landreau.
Contrôler l'immigration et améliorer l'intégration. Voilà comment le gouvernement introduit son nouveau projet de loi sur l'immigration, présenté ce matin au Conseil des ministres. Pour en parler avec nous, Thomas Proutot, chef du service police-justice ici à RTL. Bonjour.
Bonjour.
Et Thomas Després, que l'on retrouve en direct de l'Élysée. Thomas.
Bonjour à tous.
27 articles donc, dans lesquels l'exécutif veut appliquer ce mantra de Gérald Darmanin, être méchant avec les méchants, gentil avec les gentils. Ça passe, Thomas Proutot, par la régularisation d'abord de plusieurs milliers de travailleurs sans papier.
Absolument, puisque le texte propose la régularisation automatique des étrangers aujourd'hui en situation irrégulière, mais qui travaillent dans les secteurs dits en tension, où on manque de bras, pour être clair. Alors, il y a des conditions, être en France depuis au moins 3 ans, avoir travaillé 8 mois pendant les derniers 24 mois, mais l'employeur ou les employeurs ne sont plus dans la boucle, ça c'est nouveau, c'est plus de faire la demande de titre de séjour. Cela pourrait représenter quelques dizaines de milliers de régularisations. D'ici 2026, c'est le gouvernement qui donne ces chiffres.
C'est un choix économique, donc, que fait l'exécutif.
Absolument, les patrons ont poussé, notamment dans l'hôtellerie-restauration. Vous le savez, la liste des métiers en tension en France est longue, aide à domicile, chaudronnier, couvreur, plombier, bâtiment... Dans ces secteurs, beaucoup de sans-papiers ont été embauchés en contournant les règles ces dernières années. Ils sont aujourd'hui environ 700 000 sans-papiers en France, dont beaucoup travaillent. On a le sentiment que le gouvernement veut en fait remettre les compteurs à zéro, sachant qu'il y avait déjà une régularisation par le travail possible depuis la circulaire Valls de 2012, mais c'était à la main des préfets.
D'un mot, Thomas, il y a aussi C'est passeport talent pour les médecins étrangers ?
Absolument, c'est un titre de séjour facilité pour les médecins, chirurgiens, pharmaciens qui trouvent une embauche dans un établissement de santé. Et là, c'est évidemment directement pour répondre au manque de personnel médical.
On vient de parler de l'ouverture présente dans ce projet de loi, Thomas, mais il y a aussi un volet plus répressif.
Alors là, oui, c'est le durcissement de certaines règles avec deux jambes principales. D'abord, les règles qui entourent les expulsions d'étrangers qui ont commis des délits et des crimes graves. Vous savez, il y a un certain nombre de protections, notamment par exemple les étrangers arrivés avant l'âge de 13 ans en France. C'est Nicolas Sarkozy, ministre de l'Intérieur, qui les avait protégés. On ne peut pas les expulser. Eh bien, le gouvernement propose de faire sauter cette règle, ainsi que les étrangers mariés avec des conjoints français. Ça, c'est un durcissement très net. Et il y a aussi tout un ensemble de mesures sur les fameuses OQTF, les obligations de quitter le territoire français, dont on sait qu'elles ne sont pas exécutées. Alors là, c'est vraiment des choses assez fines et très techniques sur les recours possibles, sur le temps de traitement des demandes d'asile, sur la façon dont c'est fait, pour essayer de mieux faire. C'est très technique. Il y a tout un ensemble de choses. Évidemment, les associations de défense des droits disent que ça fait réduire les droits. On verra si c'est efficace, si ça a un effet. Vous savez, c'est un motto des ministres de l'Intérieur depuis toujours et ça ne progresse pas forcément.
Thomas Després, on vous retrouve à l'Élysée. À écouter Thomas Proutot balayer les différents points de ce projet de loi, on a le sentiment que l'exécutif fait encore du en même temps avec ce texte.
Oui, mais ils ne le font pas simplement pour être sympa, l'exécutif, en quelque sorte. Ils sont obligés de le faire. Il faut quand même se souvenir d'une réalité qui est là depuis un peu plus de 6 mois. Le gouvernement n'a plus de majorité à l'Assemblée. Il est donc obligé de convaincre sur tous les textes. Là, ce qu'ils veulent convaincre, c'est la droite qui pourrait, avec les voix de la majorité, voter ce texte. Sauf qu'en réalité, voilà, en réalité, en faisant du en même temps, il n'arrive à convaincre personne parce que la droite trouve notamment que cette création d'un titre de séjour pour les métiers en tension, bah, c'est synonyme de régularisation massive. Et Éric Ciotti, le nouveau patron des LR, l'a dit, hein, c'est un chiffon rouge, je ne voterai pas ce texte, donc ça peut être très compliqué. Est-ce qu'il y aura un 49-3 sur ce texte? Si le gouvernement garde ce joker, c'est peut-être aussi pour l'utiliser sur ce projet de loi. Il y a une petite ouverture qui a été faite tout à l'heure par Gérald Darmanin sur la question des quotas migratoires. On sait que c'est quelque chose que la droite demande depuis longtemps. Aujourd'hui, ce n'est pas prévu dans le texte, mais Gérald Darmanin a dit que si le sujet venait dans le débat parlementaire via des amendements des Républicains, peut-être que le sujet pourrait être adopté.
Merci beaucoup à tous les deux, Thomas Proutot, Thomas Després. On suivra évidemment l'avenir de ce projet de loi qui arrivera, vous l'avez dit, à l'Assemblée.
Étienne Robillard est notre invité dans un instant. Vous ne le connaissez pas ? Eh bien si, vous le connaissez forcément. Et on va vous dire pourquoi, à tout de suite.
Votre avis compte.
Venez l'exprimer sur RTL au 32-10.
50 centimes la minute.
RTL.
Laissez-vous tenter, midi.
RTL, la culture se met à table tous les jours dans RTL Midi. Et aujourd'hui ?
Aujourd'hui, un invité exceptionnel, un roi du graphisme. Bonjour Étienne Robial.
Bonjour.
Une exposition vous est dédiée actuellement au Musée des Arts Décoratifs de Paris. C'est d'ailleurs pour ça qu'on vous reçoit. Monique Younes, vous l'avez visité pour nous. C'est tout le parcours enfin, de notre invité qui est retracé, en commençant par les années BD.
Exactement, parce que vous avez d'abord été, Étienne Robial, libraire, puis éditeur de bande dessinée. Pascal Praud avait 10 ans quand, en 1974, vous avez fondé les éditions Futuropolis, qui vont révolutionner la bande dessinée. Avant, on achetait des Tintins, des Spirou, des Astérix. Vous avez mis l'auteur en valeur. Grâce à vous, on achète aujourd'hui la bande dessinée de Tardy, de Bilal, de Crump, de Florence Sestac. Votre librairie dans le 15e arrondissement était un endroit magique où se pressaient des passionnés du 9e art, comme Eddy Mitchell ou Alain René. Vous avez aussi excellé dans le graphisme. Depuis plus de 40 ans, des millions de Français côtoient tous les jours vos œuvres. On vous doit les logos d'M6, Canal+, RTL9, Canal Jimmy, La7, ITV, Arte, tout comme le logo du PSG et j'en passe. Mais on ne se doute pas que vous êtes aussi un collectionneur éclectique qui se passionne tant pour le design que pour les anciens interrupteurs, les passoires ou les peignes marocains pour tapis. Les génies sont déroutants.
Voilà, ça dresse un petit peu un portrait. Étienne Robial-Monique le disait, votre œuvre, elle est partout. La maquette du quotidien, L'Équipe, celle de certains magazines comme Les Inrocks, les logos télé, notamment celui d'une chaîne qu'ici, forcément, on connaît bien. M6, donc, puisque vous avez travaillé au lancement de la chaîne en 87, vous avez aussi inventé un logo pour Canal+. Comment on invente un logo d'une chaîne de télé? C'est quoi un logo réussi?
Ah, grande question. Un bon logo, j'appelle plutôt ça une marque. Une marque, bah, c'est quelque chose qui identifie immédiatement et rapidement, surtout quand on est dans un support comme la télé. C'est d'être immédiatement identifiable grâce à des fondamentaux qui sont mes éléments, qui sont la couleur, les formes et les alphabets.
Mais par exemple, M6, c'est vrai que le logo, il est, on pourrait se dire simple, vous avez mis un M et un 6, bon, très bien, mais comment on choisit le bon M, le bon 6, celui qui fait qu'il va rentrer dans les esprits?
Bah, faut d'abord faire un M et un 6 qui s'aiment bien, qui puissent coucher ensemble, se superposer et fonctionner comme ça. Enfin, c'est un jeu et ce sont tous ces jeux avec les lettres, les formes et les couleurs qui m'amusent, quel que soit le support d'ailleurs.
Et c'est le mystère de la création. Par exemple, le logo de Canal+, c'est le premier logo que vous avez dessiné en 84. Chacun se souvient, c'est l'ellipse, il y a des couleurs et il y a Canal+ qui est au milieu de cette ellipse. Mais c'est immédiat, c'est en quelques heures, c'est en quelques jours, c'est en quelques semaines.
C'est non.
L'ellipse, par exemple, elle vient comment?
On évoquait on parle de choses du XXe siècle. Hein. À l'époque, la télévision, c'était que le soir, le jeudi après-midi pour les enfants, et le week-end, on se faisait les descentes de slalom ou les matchs de rugby. Mais toute la journée, c'était tout noir. Hein. Enfin, il y avait une mire pour que M. Darty et M. Fnac puissent régler les poches et les clients. Et Canal+, c'était la grande nouveauté, c'était de diffuser 24 heures sur 24. Donc, l'idée est simple, c'est un cercle chromatique qui tourne et l'identification de chaque émission. Le matin, c'était vert, la matinée jaune et ainsi de suite.
Mais avant d'arriver à ce logo, il y en a d'autres que vous testez?
C'est
de la création. Est-ce que ça vient définitivement?
Non, enfin, je me considère pas comme un artiste ni un créateur. Hein. Je réponds simplement à des...
Un créatif?
Oui, mais non plus, c'est pas des mots qui me plaisent. Non, je réponds à des questions avec mes éléments, avec mes fondamentaux.
Votre travail, Étienne Robial, c'est l'image, bien sûr, on vient d'en parler, mais c'est aussi le son. Ça non plus, ça nous rajeunit pas forcément. C'est l'habillage de Champs-Élysées, célèbre émission de télé sur laquelle vous avez travaillé. Image et son, c'est indissociable pour vous?
Là, c'est un peu un cas particulier. C'était un gros truc, un gros budget. Pour la petite histoire, le budget de Champs-Élysées, c'était le budget de tout M6.
Ah oui.
C'était les deux Drucker. Il y avait Jean et Michel. Oui, bien sûr, la musique, bah, avec Canal+, c'est Del et Devaux, c'est pareil, c'est construit sur des grilles, sur des gabarits, sur des... Vous savez, la télévision, c'est 25 images secondes, 5 fois 5,
c'est-à-dire... Mais pour que les choses soient claires, là, dans le générique de Champs-Élysées, c'est pas vous qui faites l'image, mais qui faites le graphique. Le graphisme.
Voilà, enfin, c'est là, il y a les lettres, il y avait les lettres, en l'occurrence, c'est les lettres Champs-Élysées. Donc, il fallait associer CHRMPS et Élysée. Tout simplement, ma particularité, c'est que pour informer les téléspectateurs qu'il va y avoir un film ou un film de cinéma, le plus simple, c'est d'écrire FILM et de pas aller tourner, faire des bobinos Hollywood avec des sorties de tapis rouge. Mon travail n'est jamais anecdotique. Hein. C'est simplement des signes, des codes. Et il est là uniquement pour faire valoir ce qui va suivre. Hein. Ce n'est pas une finalité en soi. C'est pour donner envie de voir, et généralement dans les plus brefs délais, en 7 ou 8 secondes. Alors, on parlait du générique de Champs-Élysées, ça n'en finit plus, ça dure des heures, et ainsi de suite. Mais c'était...
Particulier.
C'était particulier.
Aujourd'hui, avec tous les logiciels de 3D qui existent, est-ce que votre travail, il a évolué? Est-ce que c'est différent de créer aujourd'hui, même si vous n'aimez pas trop le terme de créatif?
La technologie aujourd'hui est merveilleuse, rapide, fait gagner beaucoup de temps, mais je travaille toujours avec mon crayon et surtout ma gomme, qui est un outil d'humilité qui s'appelle Pomme Z sur les ordinateurs. Encore une fois, c'est la technologie, elle ne sert que pour aller plus vite et pour en faire plus. Mais au départ, c'est toujours des mots, des lettres et encore une fois des couleurs, tout simplement.
Merci beaucoup Étienne Robial. Je rappelle donc l'exposition qui vous est dédiée au Musée des Arts Décoratifs à Paris jusqu'au mois de juin pour avoir un peu un aperçu de tout ce que vous avez pu faire et qui est complètement entré dans nos quotidiens depuis. Merci beaucoup d'être venu nous
voir. Merci de votre accueil.
Nous allons être avec les auditeurs dans une seconde pour parler avec eux comment ils ont vécu cette deuxième journée de mobilisation. À tout de suite.
RTL Midi.